Alors, bon, c'est toujours émouvant de parler de quelqu'un avec qui on a beaucoup, beaucoup compagnonné. Nietzsche, donc, a quelque chose en commun avec son dieu favori, qui est Dionysos, hein, puisque vous savez que chez Nietzsche, il y a une distinction qui est presque tenu tout au long de l'œuvre entre Dionysos d'un côté, le dieu de l'ivresse, le dieu du mélange, le dieu tragique par excellence, et puis Apollon donc qui est le dieu de l'ordre, le dieu de la lumière, le dieu de l'intelligence. Et si Nietzsche utilise tant cette distinction entre Apollon et Dionysos, c'est parce qu'il lui semble qu'elle résume bien l'histoire, au fond, de la philosophie ou l'histoire de la pensée occidentale, ou en tout cas qu'elle permet de mettre en évidence les deux points extrêmes de cette pensée ou de cette philosophie, les deux grands pôles, les deux grandes polarités, en quelque sorte, de cette philosophie. Nietzsche considérant que toute la pensée occidentale est une pensée qui vise à s'arracher du tragique dionysiaque pour gagner les rives de l'Apollinien. Je disais donc que Nietzsche entretient un élément commun avec son personnage Dionysos, parce que Dionysos, ça veut dire « né deux fois », et on pourrait dire de Nietzsche qu'il est mort deux fois. Il est mort une première fois donc en 1890 à Turin, place Carlo Alberto. Il est pris donc d'une crise de délire et puis donc il entre dans un état donc semi-végétatif. La pièce donc Monsieur Nietzsche en fait elle prend Nietzsche à ce moment-là, au moment où il ne sort que rarement d'un état de presque complète passivité. Et il est mort donc une deuxième fois en 1900, donc 10 ans plus tard. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est finalement de comprendre que Nietzsche s'est toujours pensé lui-même comme une sorte de dieu, finalement. Si je commence par Dionysos et Apollon, c'est parce que Nietzsche s'est conçu lui-même comme une sorte de prophète. Il ne s'est jamais, finalement, départi de cette conviction d'avoir, comme les héros tragiques, un véritable destin. Et il l'a eu. Il l'a eu. Son destin a en effet été tragique. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir les textes entre les mains, c'est un peu pour cette raison que je vous ai proposé dans Ecce Homo, le paragraphe 3. Ça vous donne un peu la tonalité. Ça vous donne un peu la tonalité à la fois de l'écriture de Nietzsche et puis ça vous donne une idée de la perception en quelque sorte qu'il a de lui-même et du caractère absolument inouï de ce qu'il est en train d'essayer. Alors Ecce Homo, ça veut dire, vous le savez, donc on va essayer de vous descendre des textes hein, pour ceux qui n'en ont pas, ça veut dire voici l'homme, donc ça veut dire voici Nietzsche. Évidemment, la parenté avec le Christ hein, est constante chez Nietzsche. Elle va aller jusqu'au délire, donc à la fin de l'œuvre, hein, dans l'Antéchrist, dans sa correspondance où il signe le crucifié, où il signe Nietzsche contre le crucifié. Enfin, bref, ce débat, cette lutte sera évidemment constante donc dans l'œuvre de Nietzsche. Et donc ce Ecce Homo, voici l'homme, en fait est un texte relativement tardif que Nietzsche, donc, dans les 10 dernières années donc, de sa production littéraire, entre 80 et 90, donc, produit pour rendre gloire à son œuvre. Ce qui d'ailleurs est une tonalité que vous retrouvez dans la dernière œuvre poétique de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, où Nietzsche prend volontairement le ton prophétique, termine chaque paragraphe par Ainsi parlait Zarathoustra, commence chaque paragraphe par En vérité je vous le dis, ce qui est évidemment pas sans rappeler un certain style d'un certain livre que l'on connaît bien. Bon. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que Nietzsche a été, pour ainsi dire, poursuivi toute sa vie par l'idée qu'il est une exception. Et il faut prendre au sérieux cette dimension de l'exception, parce qu'évidemment, comme vous le savez, tout le monde veut être exceptionnel. Ça va rappeler des souvenirs à certains, mais personne ne veut être une exception. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que l'exception, eh bien, c'est celui qui est hors de toute communauté, celui qui est condamné à une solitude amère et pesante, celui qui est condamné à l'incompréhension, tel, vous le savez, Zarathoustra, donc, qui, lorsque il descend vers la plaine, se rend compte que le peuple n'a pas les oreilles ouvertes pour l'entendre. Je crois que donc Nietzsche a eu constamment conscience du caractère donc exceptionnel de son destin. Et la solitude qu'il décrit dans le paragraphe 3 de Ecce Homo, donc dans l'avant-propos d'Ecce Homo, n'est pas une solitude littéraire, c'est pas une solitude imaginaire. J'aurais peut-être à évoquer tout à l'heure Rimbaud, l'esprit a soufflé dans cette maison hier soir, puisque nous entendions un propos de Jean-Noël Dumont sur Une saison en enfer. Et des analyses que vous ne trouverez dans aucune bibliothèque, c'est ça quand même qui est étonnant au Collège supérieur. C'est pas une solitude projetée, ce n'est pas une solitude écrite, c'est véritablement une solitude vécue dans la douleur des tripes. D'où d'ailleurs les quelques petits efforts très légers que Nietzsche fera pour se faire reconnaître, efforts vains bien sûr, qui donneront lieu à mille malentendus et qui renforceront encore sa solitude. Alors ce petit texte, nous le lisons pour juste mettre dans nos oreilles la musicalité du texte qui est absolument admirable. « Qui sait respirer l'air de mes écrits sait que c'est un air des hauteurs, un air mordant. Il faut être fait pour y vivre, sans quoi le péril est grand d'y prendre froid. La glace est proche, la solitude effrayante. » Mais comme les choses y baignent paisiblement dans la lumière, comme on y respire librement, combien de choses on y sent au-dessous de soi. La philosophie, telle que les tours comprises et vécues, consiste à vivre volontairement dans les glaces et sur les cimes, à rechercher tout ce qui, dans l'existence des pays, est fait question, tout ce qui, jusqu'alors, a été mis au ban par la morale. Je dois la longue expérience acquise au cours d'une telle incursion dans les contrées interdites d'avoir appris à envisager, tout autrement qu'on ne le souhaiterait sans doute, les raisons pour lesquelles on a jusqu'ici moralisé et idéalisé. Je reviendrai sur ce texte par la suite. Mais donc, on perçoit ici hein, cette solitude dans laquelle, à laquelle finalement se condamne ce que Nietzsche va appeler l'esprit libre, hein, qu'il ne faut pas confondre, on le verra tout à l'heure, avec le libre penseur. Alors évidemment, quand on ne sait rien de Nietzsche, on sait qu'il est l'auteur de La mort de Dieu, même si, en effet, cette expression préexiste. Bon, mais on sait qu'il a donné une résonance toute particulière donc, à ce thème de la mort de Dieu. En fait, ce thème, là encore, apparaît assez tardivement dans l'œuvre. Nietzsche n'a cessé de rompre des lances contre la métaphysique classique, Apollon qui cache Dionysos, mais en même temps Apollon comme le double nécessaire de Dionysos. Il n'a cessé de rompre des lances contre le christianisme. Mais au bout du compte, ce thème de la mort de Dieu, il faut attendre 1882 pour le voir apparaître donc la première fois dans l'ouvrage donc, qui s'intitule « Le gai savoir ». Et en fait, dans « Le gai savoir », nous sommes très étonnés de constater qu'il y a deux textes qui sont consacrés à la mort de Dieu. Un premier texte dans le livre 3 du « Gai savoir », un deuxième texte dans le livre 5. Alors, il faut simplement, pour bien comprendre cela, ne pas oublier qu'entre le livre 3 du Gai Savoir et le livre 5, il s'écoule 4 ans. 1882 pour le premier texte du livre 3 et 1886 pour le deuxième texte donc, du livre 5. Et je vous l'ai mis donc sur une même feuille. Hein. Le livre 3, voilà le texte, et puis le livre 5, donc, c'est le texte est au dos. Et il me semble que on sera frappé. Alors, on va lire ça gentiment. On va lire ça gentiment, mais vous verrez qu'on va être frappé par la différence de tonalité. Le contenu est relativement proche dans les deux textes, mais il y a une différence de tonalité entre les deux textes. Quelle est cette différence de tonalité ? Je résume cette différence en disant que dans le texte de 82, donc du livre 3 du Gai Savoir, on est plutôt dans un registre de la terreur. Il se passe quelque chose de terrifiant. Il se passe quelque chose dont on ne sait pas si nous pourrons y survivre. Autrement dit, dans le texte du troisième livre donc, du Gai Savoir, ce qui est très présent, c'est l'inquiétude. Et c'est l'inquiétude devant un phénomène tel qu'il n'a pas d'égal dans l'histoire de la civilisation occidentale, de la culture occidentale, dans l'histoire de l'Occident. Autrement, et d'ailleurs, Nietzsche commence par refouler en quelque sorte le joyeux débile qui dit « Oh, bah, tant mieux, oui, bah, c'est super, bah, pourquoi pas, etc. etc. » Et il l'appelle précisément à la gravité. Je dis, non, mais c'est pas le moment de faire les fanfarons. C'est pas le moment d'entrer dans des comportements anounesques. La chose est bien trop sérieuse pour en rigoler. La chose est bien trop sérieuse pour faire preuve d'ironie. La chose est bien trop sérieuse pour la traiter avec une forme, au fond, de dédain et de détachement. Autrement dit, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que Nietzsche soit, au fond, le prophète de la mort de Dieu. C'est pas tellement ça, l'intérêt. C'est la gravité avec laquelle il comprend cet événement de la mort de Dieu. C'est, finalement, le tragique qu'il reconnaît dans cet événement. Et puis, nous tournons les pages, nous arrivons au livre 5. 4 ans s'est écoulé. Entre les deux, l'écriture de « Ainsi parlait Zarathoustra ». Le registre a changé, vous allez voir. Ce n'est plus le registre de la terreur, ce n'est plus le registre d'une inquiétude sourde qui vise à se demander si on va pouvoir rester debout après s'être foutu du sang sur les mains, et quel sang. Le registre est celui de l'espérance. Le registre est celui de l'espérance, le registre est celui d'une forme de liberté nouvelle, une innocence nouvelle. Enfin, nous allons pouvoir comprendre, dans tous les sens du terme, je dis ça pour certains de mes élèves, enfin nous allons pouvoir comprendre, non parce qu'ils ont eu au concours blanc, faut-il souffrir pour comprendre. On va pouvoir enfin donc comprendre ce qu'est l'innocence du devenir. Jusque-là, nous avons été privés de cette conscience. Seuls quelques personnages un peu hardis, seuls quelques esprits libres précisément, ont pu avoir l'intuition de cette innocence du devenir. Et la mort de Dieu, voilà qui rend possible, pour ainsi dire, voilà qui rend réel, voilà, qui ne condamne pas à être une pure projection ou une pure préfiguration, cette innocence du devenir. Et donc, la tonalité sera celle de la liberté. Vous voyez ? Alors, avec des choses, finalement, bon, assez classiques, au bout du compte, assez basiques, hein, cette idée que Dieu étant mort, bon, eh bien, voilà, nous allons pouvoir commencer, dit Nietzsche, des navigations joyeuses sur des mers ouvertes. Jamais mer n'a été semblablement ouverte. Peut-être bien que notre bateau sera un peu ivre. Peut-être bien que de cette ivresse, d'ailleurs, nous n'aboutirons à rien, ce que je crois. Et c'est l'échec de Ainsi parlait Zarathoustra qui se lit dans les textes déchirants de 87-88, qui sont des textes de furieux. Alors même que Nietzsche nous dit, ça y est, allez, allons-y, la vision de l'innocence est possible. Jamais il aura été plus méchant, jamais il aura été plus critique, jamais il aura été plus négatif, jamais il aura été plus destructeur. Mais enfin, il y a dans ce texte donc, du cinquième livre, ce qui a eu beaucoup dans le romantisme, dans une forme de romantisme païen, justement, dans une forme de romantisme athée, qui est cette croyance au fait que les voiles de la liberté vont enfin pouvoir voguer vers des destinations, lesquelles ? Ouvertes. On va dire ouvertes. Alors, je vous propose de vous emparer du texte parce que vous allez voir que comment ces deux registres, en quelque sorte, vous voyez, sont mis en forme par Nietzsche. Alors, je ne peux pas faire comme celui qui a été mon initiateur et mon maître, je voudrais lui rendre hommage ici, Henri Birot, très grand lecteur de Nietzsche, je ne peux pas faire comme lui. Birot avait le texte allemand. Et en fait, il déclamait Nietzsche, parce que sa thèse, c'était qu'il y avait un lyrisme poétique dans toutes les œuvres de Nietzsche, c'est la prose poétique. Alors, il déclamait en allemand, donc nous, on faisait semblant de comprendre. Et puis ensuite, il nous donnait quelques petites traductions de ci, de là, etc. Je ne peux pas m'employer à cela, malheureusement, mais on va lire ça donc, dans la traduction Gallimard. La traduction de Montinari, qui est vraiment une des toutes meilleures. En tout cas, les notes sont vraiment très, très complètes dans cette collection grise, donc la collection Glimard. L'insensé, c'est bien un insensé qui parle. C'est bien quelque chose d'insensé. C'est bien quelque chose d'inouï. Je suis dans le livre 3. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu ? » dit l'un. « S'est-il égaré ? Comme un enfant ? » dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part ? A-t-il peur de nous ? » S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ? Ainsi, ils criaient et riaient tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu ? » cria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué. Vous et moi. Nous tous sommes ses meurtriers. Et comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier ? Qu'avons-nous fait à désenchanter cette terre de son soleil ? Vers où roule-t-elle à présent ? Vers quoi nous porte son mouvement ? Loin de tous les soleils ? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue ? Et cela en arrière, de côté, en avant ? Vers tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Ne sentons-nous pas le souffle du vide ? Ne fait-il pas plus froid ? Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit ? Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin ? N'entendons-nous pas rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelit Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine ? Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort. Dieu reste mort. Bon, qu'il soit mort, mais Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué ? Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers, ce que le monde avait possédé jusqu'alors, de plus sacré, de plus puissant, a perdu son sang sous nos couteaux,
qui essuiera ce sang de nos mains? Quelle eau pourra jamais nous purifier? Quelle solennité expiatoire, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action? Il n'y eut jamais d'action plus grande, et quiconque naîtra après nous appartiendra en vertu de cette action même à une histoire supérieure, à tout ce que fut jamais l'histoire jusqu'alors. Ici, l'homme insensé se tut et considéra à nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et le regardaient sans comprendre. Enfin, il jeta sa lanterne au sol, si bien qu'elle se brisa et s'éteignit. « J'arrive trop tôt, dit-il. » Ensuite, mon temps n'est pas encore venu, ce formidable événement est encore en marche et voyage. N'est pas encore parvenu aux oreilles des hommes, il faut du temps à la foudre et au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux actions après leur accomplissement pour être vues et entendues. Cette action-là leur est encore plus lointaine que les astres les plus lointains, et pourtant, ce sont eux qui l'ont accomplie. On raconte encore que ce même jour, l'homme insensé serait rentré dans différentes églises où il aurait entonné son requiem et aeternam deo. Jeté dehors et mis en demeure de s'expliquer, il n'aurait cessé de repartir. Que sont donc ces églises si elles ne sont les caveaux et les tombeaux de Dieu? Donc, vous voyez que là, hein, c'est ce que j'appelle donc le registre au fond du terrible. Hein, il s'est passé quelque chose tel que il est sans équivalent. Et de telle sorte que nous ne pouvons même pas encore l'entendre. C'est tellement inouï que nous ne sommes pas encore en mesure de l'entendre, sauf peut-être quelques êtres capables de cette liberté suffisante pour savoir ce qui s'est passé vraiment, sauf peut-être ces experts justement en décadence, sauf peut-être ces déchiffreurs de l'histoire, hein. Et je crois que Nietzsche se présente tout au long de son œuvre comme précisément hein, ce déchiffreur de l'histoire. Il dit ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Peut-être que lui est capable, donc, et quelques-uns, de savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais vous voyez que l'interrogation porte sur qu'avons-nous fait ? Nous avons vidé la mer. Et qu'est-ce que c'est finalement que ce geste? Et l'humanité peut-elle au fond y survivre? Si nous prenons le livre 5, nous sommes surpris d'emblée par le titre, ce qu'il en est de notre gaieté. Et là, manifestement, les choses ont changé. Alors vous voyez, quand on lit le gai savoir à la suite, évidemment, on ne comprend rien à tout ça. Hein, et si on intercale le Zarathoustra, le ainsi par les Zarathoustra, qui lui aussi d'ailleurs... au fond, parcourt toute l'histoire de la morale hein, en tant qu'il est Zarathoustra, en tant qu'il est Zoroastre, donc l'inventeur du bien et du mal. C'est à lui qu'il revient de boucler cette histoire. Et donc, si Nietzsche confie à l'inventeur de la morale le soin de dire ce qui vient après la morale, c'est parce que, en tant qu'il en est l'initiateur, il est celui qui en comprend le destin. Ce Zarathoustra donc s'intercale avant entre le texte du troisième livre et le texte du cinquième livre et donc vient s'enrichir en quelque sorte de la prophétie de Zarathoustra qui ne cesse d'ailleurs de rassurer les hommes en disant « Attendez, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pris de terreur. » Et donc Zarathoustra qui sent qu'il n'est pas compris au fond, se mue peu à peu dans le texte, il faudrait suivre le Zarathoustra, en psychologue des âmes. Hein, et il cherche donc à les guider sur ce chemin aride, sur cette ligne de crête, entre hier et demain. Ligne de crête dans laquelle, ou pour laquelle, finalement, il n'y a plus ni haut ni bas. Vous l'avez remarqué, hein, c'est ce que dit le texte. Ni gauche ni droite. Il n'y a plus finalement... d'ordre. Et c'est quand même très frappant de voir que nous sommes à l'aube de la philosophie de l'absurde. Nous sommes à l'aube de la littérature de l'absurde. Or, qu'est-ce que c'est que cette littérature de l'absurde? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'absurde? Précisément, pensez à Kafka par exemple, celle qui dira « il n'y a plus ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche ». Il n'y a rien qui puisse finalement nous permettre de nous orienter dans cette existence. C'est vraiment la question de l'orientation qui est posée par la mort de Dieu. C'est vraiment cette question de la destination. C'est vraiment cette question de la vocation. Voyez. Et au fond, la littérature de l'absurde va prendre acte de ce vide, de ce manque. Pour témoigner d'ailleurs, pour manifester cette désorientation, le théâtre de l'absurde, par exemple, fera surgir ses héros dans des décors qui sont des déserts. S'il y a un arbre, il est mort. Pensez à Beckett. Des rochers. Rien qui vient évoquer le langage de la nature. Et cette nature privée de langage renvoie l'homme à cette fonction absurde, à cette fonction devenue absurde, qui est précisément la fonction de parler. Donc, ce texte-là que nous allons lire, le texte du livre 5, eh bien, s'inscrit donc dans cette prophétie hein, de Zarathoustra, qui se fait donc l'annonciateur l'innocence du devenir, qui se fait donc l'annonciateur de cette liberté, au fond, telle qu'on l'a jamais comprise. Ce qu'il en est de notre gaieté, le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit. Vous voyez, donc là, on ne parle pas de l'insensé, c'est-à-dire on ne regarde pas comment la conscience de la mort de Dieu résonne dans la conscience de celui qui se rapporte à cet événement, mais c'est l'historien qui parle, c'est l'expert en civilisation, c'est Nietzsche, lecteur de toute la civilisation occidentale, qui parle dans une tonalité très distanciée. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la tonalité tragique du premier texte. Le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit, commence dès maintenant à étendre son ombre sur l'Europe. Ou quelques rares, tout au moins lui-même donc, doué d'une suspicion assez pénétrante, d'un regard assez subtil pour ce spectacle. Il semble en effet que quelques soleils viennent de décliner, que quelques vieilles profondes confiances se soient retournées en doute. À cela, notre vieux monde doit paraître de jour en jour plus crépusculaire, plus méfiant, plus étranger, plus vieux. Mais sous le rapport essentiel, on peut dire, l'événement en soi est beaucoup trop considérable, trop lointain, trop au-delà de la faculté conceptuelle du grand nombre, pour que l'on puisse prétendre que la nouvelle en soit déjà parvenue, bien moins encore que d'aucuns se rendent compte de ce qui s'est réellement passé, comme de tout ce qui doit désormais s'effondrer une fois ruinée cette croyance, pour avoir été fondée et bâtie sur elle, et pour ainsi dire enchevêtrée en elle. Par exemple, notre morale européenne dans sa totalité. Cette longue et féconde succession de ruptures, de destructions, de déclins, de bouleversements, qu'il faut prévoir désormais, qui donc aujourd'hui la devinerait avec assez de certitude pour figurer comme le maître, l'annonciateur de cette formidable logique de terreur, le prophète d'un obscurcissement, d'une éclipse de soleil comme jamais il ne s'en produisit en ce monde. Même nous autres, devineurs d'énigmes, nous autres, devineurs nés, qui en quelque sorte vivons en attente sur les montagnes. Vous voyez le texte de Etchiomo et Zarathoustra, toujours avec cette image de la montagne. Placés entre aujourd'hui et demain, la dimension prophétique, et comme tendus par la contradiction entre aujourd'hui et demain, nous autres prémices, nous autres progénitures prématurées du siècle à venir, qui dès maintenant devrions être capables de discerner les ombres sur le point de recouvrir l'Europe, d'où vient que même nous autres, nous envisagions la montée de cet obscurcissement sans en être vraiment affectés, et surtout sans souci ni crainte pour nous-mêmes. Sans souci ni crainte pour nous-mêmes. Vous voyez que, donc là, on passe vers un autre registre. Hein. Le ton est très analytique. Bien évidemment, nous avons cette même idée que rien en Occident ne s'est passé d'aussi fondamental, d'aussi grave, d'aussi important que cet événement de la mort de Dieu. Mais c'est pour dire d'où vient que finalement, au bout du compte, nous n'en soyons pas si affectés, sans être vraiment affectés, surtout sans souci ni crainte pour nous-mêmes. Subirions-nous trop fortement peut-être l'effet des conséquences immédiates de l'événement ? Conséquences immédiates qui, pour nous autres, ne sont, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être en attendre, nullement affligeantes ni assombrissantes, mais bien plutôt comme une lumière, une félicité, un soulagement, un égaiement, un réconfort, une aurore d'une nouvelle sorte qui ne se décrit que difficilement. En effet, nous autres philosophes, nous autres esprits libres, à la nouvelle que le vieux Dieu est mort, nous nous sentons comme touchés par les rayons d'une nouvelle aurore. Notre cœur, à cette nouvelle, déborde de reconnaissance, d'étonnement, de pressentiment, d'attente. Voici l'horizon à nouveau dégagé, encore qu'il ne soit point clair. Voici nos vaisseaux libres de reprendre leur course, à tout risque. Voici permise à nouveau toute audace de la connaissance et la mer, notre mer, la voici à nouveau ouverte. Peut-être n'eût-il eu jamais mer semblablement ouverte. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça ressemble furieusement à une dissertation assez mauvaise d'un élève de terminale, voire peut-être même de classe préparatoire. C'est-à-dire que beaucoup d'assertions, beaucoup d'affirmations, pas la moindre justification. Et vous savez que c'est le genre, alors qui a fait beaucoup écrire, c'est le genre d'écriture donc qu'adopte Nietzsche, hein, c'est-à-dire le genre de l'aphorisme, le genre du récit qui serait plus près d'ailleurs au fond de la forme du mythos, de la forme du mythe, hein, et de ce point de vue-là, Nietzsche reste proche des tragiques. Moi, ma thèse, c'est qu'il reste proche des tragiques jusque dans une écriture aphoristique qui se tient au fond à distance du logos apollinien, enfin du logos de la raison. Une écriture, au fond, qui, ne produisant jamais ses justifications, est prise en quelque sorte dans l'élan de la pensée, et évidemment, cet élan de la pensée donne lieu à une multitude de contradictions. Vous savez qu'un interprète de Nietzsche a déclaré avec assez d'humour que Nietzsche n'avait laissé à personne d'autre le soin de se contredire. Bon, le soin de le contredire puisqu'il l'avait fait lui-même. Bon, et de fait, c'est vrai que la lecture de Nietzsche est extrêmement complexe en raison du fait que d'un texte à l'autre, le travail de justification manquant, eh bien, les aphorismes ne se répondent pas, mais bien souvent, ils se contredisent. J'ai parlé de liberté, par exemple. Bon, je consacre un chapitre à cette question de la liberté, qui est une question absolument redoutable, en fait, chez Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui n'est pas une liberté du sujet? Est-ce que finalement Nietzsche reste un classique, c'est-à-dire le plus haut degré de la liberté, c'est la coïncidence avec la nécessité? Est-ce qu'il n'y a pas plus haute liberté que dans cette amour fatigue? Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui ne peut jamais finalement se décliner d'un point de vue strictement individuel? Comment est-elle conciliable avec le principe ontologique que retient Nietzsche, principe qui commande l'être, qui est la volonté de puissance? Enfin bref, on n'y comprend rien.
Bien. Simplement, vous voyez, ce qui manque au fond au texte, là, quand je dis cette aphoristique, fond, voilà, c'est très entraînant, mais on aimerait savoir de quoi il est question. En fait, ce qui manque quand même dans le texte, et dans tous les textes de Nietzsche, c'est une analyse des causes quand même. C'est-à-dire, c'est quoi cette mort de Dieu? Et ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est, au fond, peut-être ces différentes causes de la mort de Dieu. Qu'est-ce que cet événement de la mort de Dieu? Alors d'accord, nous sommes en 1880 et Dieu est mort. Bon, c'est-à-dire la vieille croyance dans le Dieu chrétien décline. Bon, c'est un déclin. Bon, il est le déchiffreur, en quelque sorte, de ce déclin. Mais donc, de manière très disséminée dans de nombreux textes, Nietzsche va essayer d'essayer de comprendre ce phénomène et de dire mais pourquoi finalement Dieu est-il mort? Enfin, qu'est-ce qui fait que nous l'avons tué? Puisque, bon, on pourrait dire il s'est dégonflé comme une baudruche, vous voyez, comme une espèce d'illusion que même les dieux périssent, vous connaissez la formule de Pline, bon voilà, même les dieux sont mortels, bon alors voilà, se serait-il dégonflé comme ça, comme une baudruche? Est-ce que les illusions, en quelque sorte, sont appelées à être dénoncées ou à se dénoncer elles-mêmes, en quelque sorte, à se vider de leur substance? C'est ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs, quand on lit Le Crépuscule des idoles, donc 1888, et quand on lit le sous-titre Comment philosopher à coups de marteau. Parce que le marteau, n'est pas, parce qu'on dit volonté de puissance, putain, le marteau, ça doit être le marteau qui cogne partout et qui détruit. Mais pas du tout, pas du tout. Le marteau, c'est le marteau du médecin. Comment philosopher à coup de marteau, c'est pas comment détruire les idoles. Y a quelque chose de chinois dans la pensée de Nietzsche. Le grand général est celui qui remporte des batailles faciles. C'est-à-dire qu'il cueille les fruits mûrs. Il n'y a pas là la brusquerie, en quelque sorte, d'une dénonciation. Il y a juste le fait de voir où on en est, pour ainsi dire. Oui. Et donc, le marteau, c'est le marteau qui auscule, c'est le marteau du médecin qui tape sur l'idole, qui tape sur l'illusion, pour voir si elle rend un son creux ou un son plein. Voilà. Philosopher à coup de marteau, c'est prendre les idoles et puis mettre un petit coup de marteau et regarder si ça sonne creux ou si ça sonne plein. Donc, Nietzsche va éparpiller dans son œuvre différents signes, en fait, par lesquels il prétend comprendre cette mort de Dieu. Je vous en livre quelques-uns. Qui parcourt donc à peu près chronologiquement l'œuvre, mais enfin je ne vous fais pas un truc savant, donc c'est pas... Il y a une première raison que Nietzsche avance pour comprendre cette mort de Dieu, c'est que décidément nous sommes devenus trop critiques. C'est un point qui apparaît dans Le Gai Savoir, c'est un point qui apparaît dans Humain trop humain. Nous sommes devenus trop critiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident s'est fondé sur, en effet, le privilège du logos, sur le privilège de la raison critique, et la raison critique est venue à bout d'Apollon. Et pas seulement, finalement, à bout d'Apollon, mais à bout de toutes les données suprasensibles. Alors, ce n'est pas un terme vraiment nietzschéen, de tous les idéaux, on pourrait dire. Hein. Suprasensible, c'est Heidegger qui interprète ça dans son très joli texte, donc tiré des chemins qui ne mènent nulle part, sur le mot de Nietzsche, Dieu est mort. Hein. Très 50 pages absolument lumineuses où Heidegger commente Heidegger. Bon. Il prend évidemment pas mal de liberté avec Nietzsche, mais bon. Et donc on pourrait dire, vous voyez, nous sommes devenus trop critiques. La raison s'est développée comme instance critique, et alors on s'est gratté la barbe et on s'est dit, mais dans le fond, le Dieu du monothéisme... Au fond, tout cela, est-ce que ce n'est pas une projection anthropologique? Il ne faut pas oublier que quelques années auparavant, un homme, un philosophe, disons philosophe, avait publié quand même un très grand texte en 1845, L'essence du christianisme. Et cet homme, c'est Ludwig Feuerbach. Et ce texte a eu une résonance phénoménale, au point qu'un type complètement inconnu, vivant dans un trop petit pays pour un si grand esprit, c'est ce qu'il disait de lui-même, Kierkegaard, danois donc, lui répond en 1848 par l'école du christianisme. Donc l'essence du christianisme a eu un très fort retentissement. Les lectures de Nietzsche ont été rares, il s'en foutait à peu près, il a à peu près rien lu en philosophie, il était philologue, donc il connaissait très bien l'Antiquité. Mais c'est à peu près les seuls philosophes qu'il ait vraiment parcouru. Il dit qu'il a lu le monde comme représente Schopenhauer. J'en crois rien. Il en a lu quelques bouts, probablement. Mais il parle toujours plus volontiers, comme quelqu'un d'ailleurs ici dans cette salle, il parle toujours mieux et plus volontiers des livres qu'il n'a pas lus, et avec plus de pertinence. Enfin, certains, c'est des films. Enfin bon. Et donc, mais avec brio. Hein. Et donc, voilà. Donc, non, ses lectures philosophiques ont été très, très pauvres, il faut le reconnaître, hein, très faible. Ses lectures de deuxième ou troisième main, alors il règle son compte dans un... Ça n'a aucun intérêt. Enfin, les textes de Nietzsche sur les philosophes, vraiment, sont très pauvres. Enfin. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que, voilà, nous sommes devenus tellement critiques que nous sommes capables d'interroger les objets de la connaissance, hein, comme dit cette vieille barbe de Kant, nous faisons paraître la raison devant son propre tribunal. Bon, ben, la raison, le résultat, c'est que rien n'y résiste, finalement. Vous voyez, Kant voulait répondre au scepticisme, ah ben, bravo, c'est réussi. C'est-à-dire que lorsque la raison paraît devant son tribunal, eh bien, elle conclut que c'est elle qui produit les idéalités. Alors, c'est pas le cas chez Kant, mais bon, c'est elle qui produit les idéalités. Et comme le dira Feuerbach, bah, Dieu, c'est une projection anthropologique. On ne peut plus y croire. Ou bien alors, au contraire, on ne peut qu'y croire. On ne peut qu'y croire, c'est-à-dire que la raison, au bout du compte, donc, n'a plus rien, pour ainsi dire, à en dire, si ce n'est qu'elle n'y croit pas. Et comme elle n'y croit pas, on peut y croire, mais d'une manière un peu mystico-gélatineuse. Et alors, c'est le mysticisme romantique qui va apparaître donc, dans la deuxième moitié du 19e. Voilà, nous sommes devenus trop critiques. Bien. Deuxièmement, alors un truc assez sérieux, c'est que, devenant trop critiques, nous sommes devenus psychologues. Alors, je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, mais alors là, ils vont voir à quel point leur importance est justifiée. Pour une fois, peut-être. Ben alors, c'est que nous sommes devenus psychologues. Oui, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. C'est pour ça que c'est bon. Et donc, si vous voulez, nous sommes devenus psychologues. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une attitude psychologique pour Nietzsche ? C'est que quand quelqu'un parle, d'ailleurs c'est tordu, quand quelqu'un parle, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ce qu'il dit est simplement le symptôme de ce qu'il ne dit pas. C'est ça la psychologie des profondeurs. Et cette psychologie des profondeurs, elle va nous conduire à une attitude que Nietzsche, évidemment, va incarner à merveille, qui est l'attitude du soupçon. Vous savez que la logique du soupçon, c'est la logique qui consiste à dire « ce que je vois, c'est pas ce que je vois. Et ce que j'entends, c'est pas ce que j'entends. » Et derrière, il y a des intentions cachées qui se déguise dans ce qui est dit ou dans ce qui est montré. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas seulement l'écart qu'il y a entre ce qui est pensé ou voulu et ce qui est manifesté. C'est le fait que ce qui est manifesté est le masque de ce qui est dit. Alors, évidemment, Foucault s'en souviendra. Il n'y a pas de Foucault. Tout Foucault s'effondre sans le soupçon. Sans Nietzsche, pas de Foucault. Grosse perte. Voilà. Et donc, les trois auteurs du soupçon, je le dis pour les plus jeunes ici, les trois auteurs du soupçon seront, vous vous en doutez, Marx et Freud. Donc, la trilogie infernale qui a vraiment sapé les conditions constitutives de l'exercice de la raison ou de la parole, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont sidéré littéralement le XXe siècle. Le XXe siècle intellectuel ne pouvait avoir qu'un rapport de sidération devant ses auteurs, précisément parce que celui qui s'engage dans la rude tâche de parler se sent immédiatement dans l'impossibilité de le faire, ou pris dans le tourment du soupçon, de telle sorte qu'il lui revient de ne jamais savoir ce qu'il dit. Alors, ça veut dire que, vous voyez, dans ce qui apparaît, dans ce que la raison produit, dans ce que le langage produit, eh bien, de la même manière, nous avons appris à déceler donc, des intentions cachées. Ça donne quoi par rapport au christianisme ? Oh, ben là, vous le savez, c'est parce que c'est là, c'est ce que l'on sait de Nietzsche, c'est ce qui apparaît le mieux. En fait, dans l'esprit clérical, on dit comme ça, c'est plus facile, mais dans l'esprit religieux, on va dire, qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui se cache ? Je n'écoute pas la parole de l'Évangile, je regarde ce qui se cache derrière cette parole, et je vois cette parole comme le masque de sa véritable intention. Terrible comme attaque, impossible de s'en relever d'ailleurs, du soupçon, personne ne se relèvera jamais. Alors donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ça donne quoi ? Eh bien, ça donne que la valorisation des valeurs de l'esprit, hein, comme dit Nietzsche, des valeurs de générosité, des valeurs d'abandon, et pour tout le dire, des valeurs sacrificielles, cache une impuissance à affronter le tragique de la vie. Premier en philo, dernier en gym. Et dit comme ça, ça apparaît tout de suite un peu simpliste quand même, non ? Bon, mais vous comprenez, ça a créé une sidération, et c'est pour ça que Nietzsche a créé aussi un puissant élan d'admiration. Vous voyez, l'idée, c'est que, au fond, nous débusquons dans l'esprit religieux, nous débusquons quelque chose comme une impossibilité de s'en tenir à cette vie. Et cette impossibilité de s'en tenir à cette vie, dans ce qu'elle a de tragique, de dire oui à tous ces événements, quels qu'ils soient, cette impossibilité, eh bien, nous nous en guérissons, en quelque sorte, en dévaluant cette vie que nous ne pouvons supporter ainsi, et donc en valorisant cet idéal donc, de l'autre vie, cet idéal de la vie éternelle, cet idéal de la vie spirituelle. Et là, Nietzsche a trouvé un os, et c'est dommage qu'il l'ait rongé comme ça jusqu'au bout, parce que ça lui aurait peut-être permis d'aller un peu plus loin dans le paradoxe que ça représente. Je pense qu'il est resté fasciné par sa propre critique. Vous voyez, chez Nietzsche, c'est pareil, vous comprenez, à partir du moment où vous vous dites « je suis le prophète de tout ça », pour le coup, la dimension critique s'efface et la dimension du délire prend place. Et comme par hasard, 88-90, c'est pire. C'est même pas un visionnaire, quoi. C'est un furieux, quoi. C'est un fou furieux. Les lettres sont celles d'un fou furieux. Donc, voilà. Deuxième point, nous sommes devenus psychologues. Nous sommes capables d'appliquer le soupçon à la métaphysique. Platon, soupçonné. Socrate, soupçonné. Parménide, soupçonné. Et nous sommes capables, donc, d'appliquer le soupçon à l'ordre religieux. Donc, nous sommes capables, donc, de soupçonner le Dieu chrétien de ne pas être tout à fait, en fait, ce qu'il dit qu'il est. Troisième point. Alors, un point très sérieux que Heidegger met très bien en évidence dans ce texte parfaitement illisible qu'est, sur le mot de Nietzsche, Dieu est mort. Parce qu'il commente Heidegger, donc il Heideggerise Heidegger. Déjà qu'Heidegger, c'est compliqué, mais alors Heidegger au carré, c'est... Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je fais la version pour les nuls. En fait, il dit la chose suivante. Il dit deux choses qui sont liées. Il dit, en fait, l'absolu, c'est la subjectivité. C'est-à-dire que le parcours de la tradition occidentale, c'est ce mouvement qui nous conduit à une valorisation toujours plus importante de la subjectivité. Au point que, et Descartes donc est le moment crucial pour Heidegger, au point que la subjectivité soit l'absolu, ou puisse être comprise comme l'absolu. Parce que, évidemment, si on lit Descartes, c'est pas ça. Mais enfin, Descartes, vu de loin, si je puis dire, vu à l'échelle du grand mouvement de l'histoire des idées, apparaît comme ce moment de la survalorisation, de la valorisation, en tout état de cause, donc, de la subjectivité. Alors, et Heidegger nous dit, bah, donc, finalement, ce que nous dit Nietzsche, c'est très simple. C'est très simple, c'est que la mort de Dieu accomplit ce mouvement qui n'est pas seulement, dit Heidegger, historique, mais historial, par lequel l'Occident, gentiment, à petits pas, tout doucement, mais dans une logique incroyablement nette, si l'on n'a pas sur l'histoire un regard de myope, donc mouvement par lequel l'Occident va vers cette valorisation de la subjectivité jusqu'à dire que l'absolu, c'est le sujet. J'écarte Descartes, je reviens au romantisme, Attendez, vous avez... il ne suffit de pas connaître grand-chose sur le romantisme pour voir à quel point la subjectivité vivante va devenir l'absolu. Je relisais pour mes étudiants, qui ne me remercieront pas cependant, parce qu'on travaille sur la nature, sur le thème de la nature, je relisais les rêveries du promeneur solitaire, je suis frappé, j'ai été vraiment frappé par le fait qu'il y a un pré-romantisme, on ne peut pas dire un romantisme, un pré-romantisme tout à fait évident chez Rousseau. Et que finalement, à certains égards, le Zarathoustra, il ne vit pas grand-chose d'autre, si ce n'est le côté un peu prophétique en disant « les gars, on va y arriver » et tout ça. Bon, le surhomme et tout et quanti. Bon, Rousseau, il n'annonce pas le surhomme puisqu'il n'annonce plus rien à la fin. Il est tellement dégoûté de tout, il est tellement laminé, il est tellement écœuré par la méchanceté des hommes, depuis Rousseau, les juges de Jean-Jacques, que il est tout seul. Et il se résout en quelque sorte à cette solitude. C'est une espèce de Zarathoustra d'ailleurs. Mais un prophète désarmé, un prophète qui n'a plus rien à annoncer. Et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste à fusionner avec la nature. Il ne reste que sa subjectivité écorchée. Il ne reste qu'à étendre son moi à l'échelle de l'univers, à dilater son moi à l'échelle de l'univers et à faire rentrer cet univers dans le caractère limité et illimité du moi. C'est ce double mouvement qui est manifesté dans la dernière promenade des rêveries du promeneur solitaire. Et au fond, donc là, vous voyez, cet absolu de la subjectivité paraît, en tout cas quand on lit Heidegger, l'analyse Heidegger, tout à fait claire. Alors, version désastreusement plate de cette valorisation de la subjectivité, l'individualisme. Je n'en dirai pas un mot, évidemment. C'est la version ultime de ce mouvement. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que là, je vous ai parlé du destin de l'Occident, de la métaphysique occidentale, dans ce que Heidegger appelle son historialité. Vous allez me dire, historialité, c'est juste pour crâner. Non, la distinction entre historicité et historialité chez Heidegger est très importante. L'historialité marque le destin de l'histoire, comprend l'histoire comme destin, c'est-à-dire comme mouvement irrépressible. Comme justement tragique finalement. Car qu'est-ce que c'est que le tragique? On nous l'a rappelé hier soir, j'ai bien pris des notes, c'est le fait que c'est irrépressible. C'est qu'on ne peut, rien contre ce processus. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et je quitte Heidegger, c'est que ce qui est vrai pour la métaphysique est au fond vrai pour le christianisme. Dans quelle mesure peut-on dire que pour le christianisme, l'absolu, c'est la subjectivité? Eh bien, si on fait une lecture kénotique de l'incarnation. La kénose, c'est finalement, avec un K, la kénose, et avec un O, la kénose, c'est le fait que Dieu, finalement, se perd son incarnation. Il s'abandonne en quelque sorte dans son incarnation. Il devient humain. Il quitte, pour ainsi dire, sa divinité. C'est une interprétation de la kénose. On peut dire, voilà, il s'abandonne dans l'humain. Mais alors, en s'abandonnant dans l'humain, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais que l'important, c'est l'humain. Il est en train de nous dire qu'il n'y a rien de plus important que le sujet, puisqu'il s'incarne dans le sujet. Alors ça, c'est les très belles thèses que l'on trouve dans Le désenchantement du monde. Vous savez, les thèses du désenchantement du monde, c'est précisément que c'est à l'intérieur même du christianisme qu'il faut trouver le processus de déchristianisation. Gauchet, merci
Quand j'ai un problème, je tourne vers Xavier. Marcel Gauchet est l'auteur du Désenchantement du monde. Ça, c'est vraiment un très grand classique, si vous voulez. Je pense que toutes les thèses sont fausses, mais il faut quand même s'attacher à bien lire sérieusement Marcel Gauchet. Et donc, une des thèses, c'est que, au fond, c'est à l'intérieur même du christianisme que l'on trouve le processus même donc, de sa critique. Donc, voilà, si vous voulez, en quelques mots, hein, les causes que Nietzsche va mettre en évidence pour comprendre le mouvement irrémédiable, irrépressible en quelque sorte, hein, de la mort de Dieu. Il meurt, c'est bien nous en effet qui le tuons, il dit on a du sang sur les mains, c'est bien nous, mais ce nous, c'est le nous de la civilisation occidentale, c'est le nous de l'Occident, c'est le mouvement en quelque sorte collectif de l'Occident. Alors, cette mort, elle donne lieu à quelque chose, comment vous dire ça ? Elle ménage quelque chose. Elle fait naître, pour ainsi dire, une situation inédite. Et cette situation inédite, en fait, c'est celle d'une forme nouvelle de nihilisme. Et je crois qu'on ne peut vraiment pas parler de la mort de Dieu chez Nietzsche sans évidemment inscrire cette mort de Dieu dans l'interprétation que Nietzsche fait donc du nihilisme. Et pour le coup, Heidegger est un bon lecteur, enfin un bon initiateur pour comprendre ce qu'est le nihilisme. Parce que nihilisme, on comprend rien. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais Nietzsche, alors est-ce qu'il est lui-même nihiliste ? Ou mais alors est-ce qu'il dénonce le nihilisme ? Est-ce que, oui, mais alors comment ? Bon. Ok. Heidegger a vraiment le grand avantage de, un, de considérer que c'est l'événement de la mort de Dieu qui nous permet de bien comprendre vraiment la réalisation historiale, là encore, du nihilisme. Et il a la vertu, à partir de là, pour une fois, d'écrire une page parfaitement claire avec les mots de tout le monde pour nous expliquer les formes du nihilisme chez Nietzsche. Donc, Quelles sont ces formes du nihilisme ? Et ça va nous conduire peut-être vers d'autres textes que je vous ai proposés. Alors, il y a en fait une première forme du nihilisme qui est d'ailleurs celle qu'on vient d'observer dans le grand mouvement de l'Occident qui conduit peu à peu à l'affirmation de la mort de Dieu. Le nihilisme est ici un mouvement historique, un mouvement historial, donc, hein, qui est celui de la, je cite Heidegger, de la dévalorisation de toutes les valeurs. Hein, processus, donc, de dévalorisation de toutes les valeurs. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appelé valeur, eh bien, nous nous rendons compte que c'est vide. Tout ce qu'il y a, vous vous souvenez du texte, Dieu et toute la morale, hein, le christianisme et toute la morale occidentale qui s'est construite sur cette croyance en Dieu. Ok ? Alors, cette morale, elle produisait des valeurs qui étaient fondées donc par cette croyance. Tout s'effrite, tout s'effondre peu à peu. Vous voyez ? Et cette dévalorisation de toutes les valeurs, elle conduit aussi donc à la valorisation de la subjectivité et de ses désirs propres, de ses intérêts propres. Vous voyez, la dévalorisation de toutes les valeurs, c'est l'individu qui dit « et moi, et moi, et moi », comme dans la chanson de Dutronc. Vous voyez, la dévalorisation des valeurs transcendantes, c'est aussi la survalorisation de l'immanence et de ce qu'il y a de plus immanent pour moi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire mon corps, c'est-à-dire le jouir, le plaisir que je prends à vivre et que les journalistes, sur lesquels les journalistes ont tant insisté donc, dans ces derniers jours, qu'est-ce que c'est que Paris ? C'est boire un coup à la terrasse d'un café. C'est-à-dire que c'est
cette jouissance, cette quiétude, cette tranquillité, ce bonheur de vivre, ce youplaboum, finalement, hein, qui fait que l'individu donc, ne voit pas au-delà de sa propre immanence. Alors ça, donc, ça donne lieu à ce que Nietzsche appelle le nihilisme incomplet. Enfin, le terme est de Heidegger. Ça donne lieu donc à ce que Heidegger appelle, dans une interprétation qui me paraît parfaitement juste, hein, sinon je ne vous la donnerai pas, le nihilisme incomplet. C'est-à-dire qu'on a dévalorisé toutes les grandes valeurs de la métaphysique, le bien en soi, le juste, le beau, tout ça. On est beaucoup trop savant pour ne pas savoir que c'est frelaté, qu'il n'y a pas de beau en soi, qu'il y a du beau pour nous, que l'homme est la mesure de toutes choses, etc. etc. Bien. Et donc, ayant vidé de signification toutes ces valeurs, c'est-à-dire qu'elles sont à peu près rien pour nous, il suffit de lire une copie de terminale de début d'année, ça vous donne le pouls de la société, ça vous donne le pouls de la mentalité du moment, c'est-à-dire à quoi bon réfléchir, toutes les idées se contredisent, tous les sentiments se contrarient, tout, voilà, bon, donc à quoi bon. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Nietzsche nous dit ce processus historial du nihilisme, hein, qui procède à la critique des valeurs, aboutit en fait à un nihilisme incomplet. Pourquoi est-il incomplet? Parce qu'en fait, mine de rien, il en reproduit des valeurs. Comme si, précisément, l'homme était un être pour la valeur, un être selon la valeur. Comme si, finalement, le sujet ne pouvait écarter de lui cette question de la justification. Mais cette justification, il va la trouver dans l'immanence. Il y croit sans y croire. Il y croit, mais il sait qu'il ne peut plus croire. Ce qui n'est pas loin de ce que Rimbaud appelle l'enfer. Comme je l'ai appris hier. Il croit sans y croire. Parce qu'il a dégonflé toutes les valeurs et il sait que finalement aucune valeur ne... Mais finalement, il réintroduit comme mythe. Et alors, quels sont ces mythes? Ah ben, c'est les mythes du bonheur individuel, de la sécurité, le mythe de l'égalité, le mythe de la justice pour tous, le mythe du vivre ensemble, etc., etc. Il reproduit une mythologie sans le savoir. Donc ça, vous voyez, non seulement le nihilisme est incomplet, mais il est probablement plus absurde, en quelque sorte, vous voyez, que les valeurs qu'il a combattues. Il a encore moins de signification. Alors ça, c'est un moment historique très particulier pour Nietzsche, vous voyez. C'est le moment qui succède à la mort de Dieu, finalement. Bon, d'accord, les mers sont ouvertes, etc., etc. Mais enfin, avant que les mers soient ouvertes, il y a d'abord le gars qui se dit, bon, je vais construire mon petit bateau, hein, et je vais mettre, ça me suffit, sur la coque, et je vais y aller 5 semaines par an. Alors, je vais calculer mes RTT. Nous, les enseignants, nous n'avons pas de RTT. Vous savez qu'on a été écartés scandaleusement de la négociation des 35 heures. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bref. Vous avez une réponse? Bon, et donc, si vous voulez, voilà. Alors ça, c'est le moment historique qui suit la mort de Dieu, que prépare la mort de Dieu, et dont Touche pas à mon poste est vraiment la manifestation la plus emblématique. Vous allez croire que vraiment j'en veux à ce pauvre Hanouna. C'est le dernier homme. Mais les Marseillais à Cancun, ça fait très bien. Je sais qu'on partage cette passion avec mes élèves. Les ch'tis à je sais pas quoi et les Marseillais à Cancun. C'est ça, le dernier homme. On croit à des choses auxquelles on ne peut pas croire. Alors, je ne vous ai pas donné donc, des dialogues des Marseillais à Cancun parce que je ne les ai pas trouvés. Mais vous avez le prologue. Vous avez le prologue du Zarathoustra. Et le prologue, donc là, c'est cette paragraphe 5 donc, du prologue. Alors ça, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit toute la gravité, en quelque sorte, de cet événement de la mort de Dieu. Et moi, il me semble que Nietzsche pressent finalement qu'il y a là quelque chose d'impossible, d'invivable, au fond. C'est là que le tragique, finalement, n'est plus le tragique grec, livresque et amusant, mis à distance, quoi. Là, il met le nez vraiment sur ce qu'est le tragique, et je pense que ça l'a rendu fou. C'est ma thèse.
Paragraphe 5. Vous y êtes ? Quand Zarathoustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut, puis il dit à son cœur, « Les voilà qui se mettent à rire. » Vous allez voir que le rire est un signe reconnaissable du dernier homme, comme l'insensé qui se met à gesticuler devant les gars qui lui disent « Ah bon, il est parti, il est en vacances, il est en RTT, Dieu, etc. » Bon, vous avez vu qu'il se fout en colère en disant « Mais, enfin, quoi ?» Et là, alors, et dans Zarathoustra, il faudrait faire une étude sur le rire, vraiment. Si certains là ont des envies de thèse ou d'écrit, y a vraiment quelque chose à faire sur. Je pense que rien n'a écrit, franchement, je le dis simplement, sur le rire en philosophie. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a de la place. Je ne sais pas s'il y a des thésards ici ou des gens qui ont des désirs de thèse. Mais Hanouna ne peut pas faire la thèse. Il peut être l'objet de l'étude, mais il ne peut pas. Bon, alors. Donc, quand Zarathoustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur, « Les voilà qui se mettent à rire. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche faite pour ces oreilles. Faut-il commencer par leur briser les oreilles pour qu'ils apprennent à entendre avec les yeux? Faut-il battre des cymbales et clamer comme les prédicateurs de carême? Ou n'ont-ils foi quand les bègues, ils ont quelque chose dont ils sont fiers? Comment nomment-ils donc ce qui les rend fiers? Ils le nomment civilisation. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas, à propos d'eux, entendre le mot de mépris. Je vais donc parler à leur fierté. Je vais leur parler... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là toute l'attitude du psychologue. Premier paragraphe, le rire... C'est le dernier homme, mais là, dire comment me faire entendre, vous savez, c'est le professeur qui se dit, oulala, cette classe est agitée, comment faire, par quel biais, etc. Bon. Et puis il y a le prof qui ne voit même pas que c'est agité. Quoi. Bon. Et celui-là, c'est le meilleur. Donc, alors je vais leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, à savoir le dernier homme. Voilà. Et ça, c'est précisément, donc, ce que Heidegger appelle le nihilisme incomplet. Et Zarathoustra parla ainsi au peuple. Il est temps que l'homme se propose un but. Alors, vous voyez, se propose un but, ça veut dire se propose à lui-même un but. Cela veut dire que tous les buts qu'il s'est donnés jusque-là sont des buts hétéronomes. Cela veut dire que tous les buts qu'il s'est donnés jusque-là, il les a reçus de plus haut que lui, de plus loin que lui. Il faut que l'homme... s'accomplissent en l'homme. Alors ça, c'est la grande thèse du surhomme, vous voyez, parce que finalement, à l'issue de la mort de Dieu, il y a deux options, hein, soit celle du dernier homme, c'est-à-dire du nihilisme frelaté et incomplet, soit celle du surhomme, l'homme qui se donne à lui-même un but. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, nous avons strictement les deux source, pour ainsi dire, ou les deux fondements de l'athéisme. La croyance en une innocence retrouvée indépendamment d'un pardon et la croyance en un homme qui se fabrique lui-même. Les deux manières de penser l'athéisme, c'est de les penser comme une innocence qui ne suppose pas le pardon, une innocence retrouvée qui ne suppose pas le pardon, et qui suppose donc que l'on écarte la dette et la culpabilité, c'est ce que fera Nietzsche, et d'autre part, donc, que l'on pense un homme édificateur de lui-même. Et c'est le surhomme. De ce point de vue-là, vous voyez, il ne fait aucun doute. Alors certains disent, oui, ainsi parlait Zarathoustra, en fait, c'est le cinquième évangile, tout ça, regardez, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Enfin, vous voyez, mais ça, c'est une ressemblance formelle. C'est pas du tout un cinquième évangile. C'est tout autre chose que l'évangile. C'est le surhomme, c'est-à-dire l'homme capable de se transcender lui-même, capable de se dépasser lui-même et ainsi donc de s'accomplir. Il est temps que l'homme se propose un but. Il est temps que l'homme plante le germe de son espérance la plus haute.
Espérance qu'on retrouvait donc dans le fameux texte hein, du livre 5. Il est temps que l'homme se propose un but. Il est temps que l'homme plante le germe de son espérance la plus haute.
Son sol, maintenant, est encore assez riche. Mais cette terre, un jour, sera pauvre et stérile. Et aucun grand arbre ne pourra plus y croître.
Ça, c'est quand même très intéressant. Vous connaissez la formule de Nietzsche, le désert croît. Et ça, c'est précisément donc l'intuition que... Et là encore, il se fait l'observateur de son époque, il se fait le découvreur d'énigmes, comme il le dit lui-même. C'est-à-dire que cette époque se présente comme le désert, ou du moins il y a une préfiguration hein, du désert, là où précisément nul ne saurait vivre. Là où on ne se retire que provisoirement pour en ressortir purifié, là où il ne peut y avoir au fond que le caractère épisodique et momentané de l'épreuve. Au contraire, donc, ce que Nietzsche constate dans la société, pour ainsi dire, du dernier homme, c'est que les babioles d'idéaux, les idoles qui sont agitées par l'homme moderne ou par cet homme de l'époque de la mort de Dieu ou qui succède à la mort de Dieu, cache en fait une effroyable solitude et un effroyable silence.
Son sol maintenant est encore assez riche, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Mais cette terre un jour sera pauvre et stérile et aucun grand arbre ne pourra plus y croître.
Hélas ! Le temps approche où l'homme ne lancera plus par-delà l'homme la flèche de son désir, où la corde de son arc ne saura plus vibrer.
Je vous le dis, il faut encore porter en soi le chaos pour être capable d'enfanter une étoile qui danse. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos.
Hélas, le temps est proche où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Hélas, le temps est proche du plus méprisable des hommes qui n'essaie plus se mépriser lui-même, c'est-à-dire qui se gonfle justement de ses propres idéalités. Il n'est même plus invité précisément à l'humilité à laquelle il était invité lorsqu'il reconnaissait au-dessus de lui des valeurs transcendantes. L'immanence a tout dévoré. Et avec l'immanence, un faux sérieux. Un sérieux de pacotille.
Voici, je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir, étoile, qu'est-ce là ? Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l'œil.
Alors il y a deux choses qui caractérisent le dernier homme. Il rit, il se moque, autrement dit, il a le rire de la dérision. Toute ressemblance, hein, parce que là j'arrête. Hein, bon. Mais il a donc le rire de la dérision et il a le sourire, le faux sourire sardonique de la complicité. Il cligne de l'œil. Il signifie qu'on se comprend. Et donc, il donne l'impression, en quelque sorte, d'être instruit. Il sait ce qu'il en est. Mais en fait, il ne sait rien du tout. Il est pris au vertige de la glorification d'une immanence qui n'a pas de fond, qui est un désert.
Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre sera devenue plus exiguë, et sur elle sautillera le dernier homme qui amenuise tout. Plus exiguë, c'est le village planète, peut-être, je ne sais pas. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et il cligne de l'œil. Quel texte quand même.
Ils ont abandonné les contrées où la vie était dure, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché. On s'avance avec précaution. Bien fou qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes. Un peu de poison de ci, de là, cela procure des rêves agréables. Et beaucoup de poison en dernier lieu pour mourir agréablement.
On travaille encore, car le travail est une distraction.
On parle du bonheur au travail, tout ça, c'est énorme. C'est vraiment un texte incroyable.
C'est une réjouissance de voir ça, vraiment.
Non, il a été très, très puissant, vous voyez, dans la critique. Il a pas d'égal dans la critique. Et le reste est vide. Le reste nous met face à une mer ouverte. Mais alors, dans la critique, il est exceptionnel. Vraiment. Il est jouissif.
On travaille encore, car le travail est une distraction. Mais on a soin que la distraction ne fatigue pas. On ne devient plus ni pauvre ni riche. C'est trop pénible. Qui voudra encore gouverner? Qui voudra encore obéir? C'est trop pénible. Point de berger et un seul troupeau. Point de berger et un seul troupeau. Et pas un berger et pas de troupeau, justement. Chacun veut la même chose. Tous sont égaux. Quiconque est d'un autre sentiment va de son plein gré dans la maison des fous. Autrefois, tout le monde était fou, disent les plus fins, et ils clignent de l'œil. On est prudent et l'on sait tout ce qui est arrivé, de sorte que l'on n'en finit pas de se moquer. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt, de peur de se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit. Mais on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil.
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, vous voyez, sur la puissance critique, la puissance d'observation. Et d'ailleurs, je crois qu'en fait, ce n'est pas adresser une critique à Nietzsche de dire que le reste, c'est bidonesque comme le sont les grandes envolées romantiques, romantico-gélatineuses, comme disait Dumont. Parce que lui-même se dit expert en décadence. Et en fait, tout au long de sa vie, il s'est dit expert en décadence. Tout au long de sa philosophie revient ce jugement qu'il porte sur lui-même. C'est Friedrich juge de Nietzsche, c'est Nietzsche juge de Friedrich. Je suis, au fond, expert en décadence. Il n'y a pas de gens qui m'égalent dans l'étude de la décadence. Alors, je termine quand même en vous donnant le troisième moment du nihilisme. Premier moment. Le nihilisme historique ou historial, donc dévalorisation, oulala, dévalorisation de toutes les valeurs, c'est le processus historique. Deuxième moment, c'est le nihilisme incomplet, c'est-à-dire, on arrive à un moment où on a tout dévalorisé, mais en fait, l'homme est cet être qui s'invente des mythes et il en reproduit. C'est ce que nous venons de lire maintenant. Et ensuite, alors, le troisième moment, c'est le moment du surhomme. Et ce moment du surhomme, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que Nietzsche appelle l'inversion de toutes les valeurs. Et là encore, vous voyez, ne soyons pas injustes, dès le début de son œuvre, Nietzsche se présente lui-même et présente sa philosophie comme un platonisme inversé. L'inversion de toutes les valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque-là, ce qui valait le plus, en fait, c'est ce qui vaut le moins. Et ce qui valait le moins, c'est ce qui vaut le plus. Et qu'est-ce qui valait le moins? Ce qui valait le moins, c'est le corps. Ce qui valait le moins, c'est la vie. Ce qui valait le moins, c'est la puissance. C'est le vouloir vivre. C'est le vouloir selon la puissance. C'est le vouloir de la puissance. C'est le vouloir vers la puissance. Eh bien, l'inversion de toutes les valeurs, c'est donc cette philosophie de midi, dit Nietzsche, c'est cette philosophie de midi qui va redonner donc à la vie sa valeur, qui va réconcilier la vie et la valeur. Et je crois que là, il y a une très grande intuition, qui est une très grande méprise, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais il y a une très très belle intuition, c'est qu'au bout du compte, si l'on peut adresser une critique à la morale, bon, mais c'est une critique très 19e. Mais enfin, si on peut adresser une critique à la morale, c'est précisément d'avoir séparé, au fond, la valeur et la vie. S'il y a quelque chose de juste, me semble-t-il, dans cette appréciation de Nietzsche, c'est dans cette dichotomie, au fond, de la valeur et de la vie, qui est évidemment impossible, pourtant, dans le christianisme. Vous voyez? Et donc, l'idée de Nietzsche, qui me paraît vraiment juste en quelque sorte, c'est qu'il faut réconcilier la vie et la valeur. Alors, comment le fait-il ? Alors, dans une conception de la vie qu'on pourrait évidemment discuter, il le fait dans une conception de la vie, comme je vous l'ai dit, qui cherche donc sa propre affirmation. Et donc, de ce point de vue-là, donc, il est un lecteur de Schopenhauer, on trouve en lui donc une revue. Et qu'est-ce que c'est donc que le surhomme ? Eh bien, c'est ce que dit Heidegger à la fin de son article sur la mort de Dieu. Le surhomme, ben, c'est celui justement qui s'accepte comme volonté vers la puissance. C'est celui qui assume en quelque sorte, hein, c'est celui qui transcende sa négativité, ce qui est un comble pour Nietzsche qui est resté jusque dans les derniers textes d'une violence absolument inouïe à l'égard de à la fois de la métaphysique, de la philosophie, de Wagner, enfin tout y passe, du Christ, etc., etc. Mais vous voyez, donc le surhomme est justement celui qui dit oui à cette vie comme volonté de puissance, et c'est le texte donc que vous avez ici qui ouvre donc le livre 3 d'Ainsi parlait Zarathoustra. Le livre 3 d'Ainsi parlait Zarathoustra, pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage, c'est le livre vers le lumineux. Hein, c'est-à-dire que Zarathoustra commence par sa prédication. C'est un livre très, très difficile, très obscur. Hein, ça fait 20 ans que je travaille à un commentaire. J'en suis à peine à la moitié. Mais enfin, je désespère pas. Et alors, donc, il commence sa prédication et il commence cette prédication comme vous le voyez ici, hein, dans le prologue, hein, c'est-à-dire qu'il rencontre des interlocuteurs qui ne sont pas capables de l'entendre, qui ne savent pas ce qui est en train de se passer, confère le texte du Gai Savoir. Et puis, peu à peu, donc, il règle en quelque sorte les conditions même de sa prédication. Et le livre 3 s'ouvre donc par ce texte absolument merveilleux qu'il intitule « Le voyageur ». Et qui la phase lumineuse, en quelque sorte, de la prédication. C'est-à-dire là où Zarathoustra va lui-même entrer dans la positivité que incarne le surhomme. Zarathoustra n'est plus Zoroastre, ce n'est plus celui qui boucle l'histoire de la morale, c'est véritablement l'homme nouveau, le Zarathoustra nouveau, celui donc qui incarne la pure affirmation du surhomme, dont vous savez qu'elle est identifiée par Nietzsche dans le premier chapitre du Zarathoustra, du premier livre, par la figure de l'enfant. Hein, ces fameuses trois métamorphoses qui ont fait tant parler et tant écrire, hein, le chameau d'une part, le lion ensuite, et puis l'enfant enfin. Parce que précisément, l'enfant est celui qui dit « oui, c'est l'innocence que j'évoquais tout à l'heure ». Et donc, ce texte, voyez, vous donne une idée, hein, de cette représentation donc, que se fait Nietzsche du surhomme. On en lit pour conclure, si vous voulez bien. Pardon, j'ai vraiment été trop long, mais je pense que c'était nécessaire de vous dire tout ça, sinon je ne l'aurais pas dit d'ailleurs. Voilà, alors je prends au milieu, vous voyez, je prends au milieu. Et je sais une chose encore, je suis maintenant devant mon dernier sommet et devant ce qui m'a été épargné le plus longtemps, hélas. Il faut que je gravisse mon chemin le plus difficile, hélas. J'ai commencé mon plus solitaire voyage. Mais lorsqu'on est de mon espèce, on n'échappe pas à une telle heure, à l'heure qui vous dit, c'est à présent seulement que tu suis ton chemin de la grandeur. Le sommet et l'abîme sont confondus. Tu marches sur le chemin de la grandeur. Maintenant, ce qui jusqu'à présent était ton dernier danger est devenu ton suprême refuge. Tu marches sur le chemin de ta grandeur. Il faut qu'à présent, ton meilleur courage soit de sentir que tu n'as plus de chemin derrière toi. Tu marches sur le chemin de la grandeur. Ici, personne ne se glissera à ta suite. Tes pas eux-mêmes ont effacé ton chemin derrière toi et au-dessus de ton chemin, il est écrit « impossible ». Vous voyez, c'est ce qu'on évoquait sur le caractère historial, le fait que pour Zarathoustra, c'est plus possible de revenir en arrière. Hein, il est devenu un destin. Et devenir un destin, c'est précisément donc assumer cette volonté de puissance qui constitue donc l'essence même de la vie, cette volonté d'affirmation.
Ainsi parlait Zarathoustra, je suis au dernier paragraphe, vous lirez ça pour vous. Ainsi parlait Zarathoustra au moment de la montagne, au sommet de la montagne, pardon, où il faisait froid, mais lorsqu'il arriva près de la mer et qu'il finit par être seul parmi les récifs, il se sentit fatigué de sa route et plus que jamais rempli de désirs. Tout dort encore, dit-il, la mer elle-même est endormie, son œil regarde vers moi, étroit et somnolent.
Voilà, je vous remercie beaucoup, pardon d'avoir été un peu long.